Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Click en audio pour ce podcast « Viens voir les docteurs », un podcast présenté par Clément Viktorovitch. « Viens voir les docteurs », c'est une émission qui aborde les grands enjeux de notre société en compagnie de chercheurs, d'universitaires et de scientifiques pour poser tranquillement et sereinement les données du débat. Tous les épisodes de « Viens voir les docteurs » sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Click, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal.
Nos libertés seraient-elles mises en péril par un danger confortablement niché au creux de notre poche ? Nous sommes obsédés par notre souveraineté. Nous craignons qu'elle soit menacée par l'Union européenne, les ingérences étrangères, les traités de libre-échange, les organisations internationales, la finance mondiale. Pas nécessairement à tort d'ailleurs, et pourtant. En parallèle, quelques entreprises génèrent chaque année autant de richesses qu'un État. Prennent des décisions qui s'imposent à l'équivalent de la population d'un continent, tout en échappant très largement à tout impôt et toute régulation. En parallèle, quelques entreprises ont fait main basse sur notre attention. Elles influencent ce que nous voyons, lisons, regardons, plusieurs heures dans la journée. Leurs ingénieurs ont forgé les outils de persuasion les plus perfectionnés de toute l'histoire de l'humanité. Leurs produits ont un impact suffisant pour déstabiliser des pays et influencer des élections. Quelques entreprises, donc, qui disposent d'un pouvoir démesuré, tout en étant la propriété d'une poignée d'individualités. Mais étrangement, nous n'interrogeons pas la menace que Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft font planer sur notre souveraineté. Nous nous offusquons du quadrillage du territoire par les caméras de vidéosurveillance. Nous redoutons le survol des villes par les drones. Mais gardons précieusement sur nous, en tout lieu et tout moment, notre téléphone et sa puce GPS. Nous nous inquiétons des dérives sécuritaires de l'État, du recueil de données par les services de police, mais n'avons besoin de personne pour afficher sur les réseaux les restaurants où nous dînons et les endroits où nous partons en vacances. Alors, les grandes entreprises du numérique sont-elles la menace ignorée qui pèse sur nos libertés, nos démocraties et nos vies ? Peut-on encore lutter contre les GAFAM ? Bienvenue dans Viens voir les docteurs, saison 2, épisode 2. Viens voir les docteurs, première partie, avec cette question : faut-il quitter les réseaux sociaux? Alors, ça semble paradoxal de se poser cette question sur YouTube notamment, mais également sur MyCanal et à la télévision. Et on va se poser cette question avec vous, Serge Tisseron. Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, chercheur à l'Université de Paris. Vous êtes membre de l'Académie des technologies et vous avez publié de nombreux ouvrages sur les écrans, et notamment « L'emprise insidieuse des machines parlantes » aux éditions Les Liens qui libèrent en 2020, mais également « Le guide de survie pour accros aux écrans » aux éditions Nathan. Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Et à vos côtés, Dominique Boulier. Dominique Boulier, vous êtes professeur des universités en sociologie, chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, et vous avez publié « Sociologie du numérique » aux éditions Armand Collin, et plus récemment « Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux » aux éditions Le Passeur en 2020. Et donc, ce mot que vous employez tous les deux, qui est le mot « d'emprise », si bien que je vous pose la question frontalement, sommes-nous manipulés par les réseaux sociaux? Dominique.
Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux vivent de l'emprise qu'ils ont sur notre attention. Donc à partir de là, on peut dire qu'ils nous manipulent, mais vous savez, c'est une manipulation douce, donc qui obtient notre consentement, qui est une histoire très connue de ce point de vue-là. Et donc on l'obtient avec un certain nombre d'attracteurs, un certain nombre de façons de concevoir les interfaces, un certain nombre de principes où on récupère vos données, mais on vous redonne des services, gratuitement la plupart du temps. Et à partir de là, on est finalement pris, précisément, dans une mécanique qu'on n'a pas vraiment choisie. On a l'impression que on crée son compte Facebook, par exemple, mais on n'est pas chez soi. Hein, Facebook, en réalité, pilote l'ensemble des algorithmes qui font que votre fil d'actualité est modifié. Il y a un certain nombre de choses qui sont mobilisées, utilisées, et éventuellement, bien entendu, pour de la publicité que vous allez voir, mais aussi pour des publicités qui vont être utilisées ailleurs. Donc, cette idée de manipulation directe n'apparaît pas, évidemment, mais elle est appuyée sur des méthodes, et quasiment aussi des approches scientifiques derrière, qui exploitent un certain nombre de ressorts de l'attention, des ressorts cognitifs, qui sont effectivement très profitables à ces entreprises.
Serge Tisseron, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que derrière les réseaux sociaux, il y a bien des techniques de manipulation?
Oui, il y a des techniques de manipulation, et alors d'autant plus redoutables qu'elles agissent sur des désirs qui ont toujours fait partie de l'humain. Le désir de pouvoir être visible à tout instant, le désir de pouvoir avoir le sentiment de se raccrocher à une communauté à tout instant, et puis aussi le désir que mon expérience du monde soit profitable à d'autres. C'est-à-dire, nous avons tous sans arrêt des petites expériences morcelées, et nous avons l'impression d'être très seuls dans ces expériences. Les réseaux sociaux créent l'illusion que mon expérience, ce que je mange à midi dans mon assiette, le café à côté de chez moi, où je trouve que la serveuse est sympa, on pense que tout ça peut être utile au monde entier, donc du coup, voilà, on l'envoie. Et donc, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment des technologies extrêmement contemporaines, hein, en termes d'algorithmes, vont justement jouer sur ces désirs qui ont toujours fait partie de l'humain. Parce que s'il n'y avait pas cette intelligence psychologique, hein, qui anime quand même les créateurs des réseaux sociaux, eh bien, leur machine fonctionnerait à vide. Si nous nous y attachons, c'est pas parce qu'elle nous manipule, c'est parce que nous désirons qu'elle amplifie un certain nombre de compétences, de capacités, de présence au monde, que nous avons toujours eu le désir d'amplifier.
Alors, on va rentrer dans le détail de ces technologies, de ces inventions de design. Il y a des centaines, sans doute même des milliers d'ingénieurs qui ont travaillé sur ces questions en s'appuyant sur les résultats de la recherche en psychologie, en persuasion, en rhétorique, en sciences cognitives depuis des années et des années. Et c'est là-dessus que j'aimerais que nous nous arrêtions un instant. Est-ce qu'on pourrait revenir sur les quelques grandes inventions qu'on ne perçoit plus aujourd'hui comme des inventions et qui en fait forgent toute cette capacité des réseaux sociaux, soit à nous manipuler, soit au minimum à retenir notre attention?
Je pense que le bouton retweet est un bon exemple, quoi. C'est celui qui a été inventé en 2009, mais qui en réalité existait déjà dans plusieurs autres réseaux plus marginaux, et qui a été récupéré à ce moment-là, encore une fois, pour faciliter notre vie. Puisque auparavant, il fallait copier le tweet et le remettre dans un nouveau tweet, ce qui éventuellement vous permettait de faire un commentaire, etc., mais qui prenait du temps. Vous étiez donc dans une posture cognitive qui est un peu délibérative, enfin modestement, mais enfin un petit peu, vous étiez obligé de faire une tâche qui prenait du temps et donc vous entrez dans une réflexion sur ce que vous êtes en train de faire. Avec un bouton retweet, c'est extraordinaire parce que justement, vous voyez un contenu, attendez, vous voyez seulement le titre, puisque les études ont montré que depuis qu'on ne lit en réalité que 60, que ceux qui retweetent, il n'y a que 60% des tweets qui sont retweetés qui sont lus. Donc on retweet à partir du nom de l'émetteur, du hashtag ou du titre. Et donc on retweet et on rebalance. Mais donc c'est immédiat. Nous sommes dans une posture de réactivité, non plus de réflexivité, de réactivité, où rien n'est hiérarchisé, on peut le faire autant qu'on veut. Et le problème, c'est que vous voyez que ce système-là, tout seul, on se dit c'est quand même confortable, c'est un avantage. Mmh. Moi, j'ai travaillé dans les années 2000 à produire dans les laboratoires d'usage que j'avais créés, notamment celui de la Cité des Sciences, à créer des usages plus confortables pour les utilisateurs. En termes de chercheurs, avec mes collègues de sciences cognitives, on visait à permettre l'appropriation de ces technologies-là. Et puis on est un peu amer de voir que tous ces résultats-là ont été retournés pour capter l'attention au profit des firmes et justement pour nous faire entrer dans une logique de réactivité qui, de fait, vous met dans un rythme de haute fréquence qui est tout à fait impressionnant. Et quand vous ajoutez ça, pour faire très court, vous ajoutez le bouton retweet, les hashtags, une façon de taguer un sujet qui est ultra courte et qui va se propager très très vite. Le côté très court du message lui-même, hein, où on est effectivement à 140 ou 280 caractères maintenant, plus ce qu'on appelle les trending topics, qui fait que votre sujet va, parce qu'il est accéléré, non pas parce qu'il est très populaire, mais parce qu'il est accéléré, il a une croissance très forte, il va être mis en avant par Twitter. Et bien à ce moment-là, tous ces éléments-là, ce sont des choses qui facilitent la vie, qui vous orientent sur les connaissances, sur le débat actuel, sur ce qui est tendance, etc. Et donc, vous êtes prêt à l'adopter tout de suite. Vous n'allez pas résister à cela. Et vous allez même avoir du mal si vous voulez résister. Et puis, en réalité, vous allez être pris dans une mécanique où votre propre cerveau, votre propre activité attentionnelle va être en permanence soumise à cette échéance, à ce rythme, à ce bombardement et à cette réactivité qu'on vous impose sans réellement vous l'imposer. Parce que précisément, vous y trouvez votre compte aussi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le maître mot dans tout ça, c'est consentement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, quand on utilise les réseaux sociaux, qu'on fait des choix éclairés, conscients, auquel on consent volontairement, alors qu'en fait, il y a, et c'est ce que vous décrivez tous les deux, toute une foultitude de petites techniques, de ce qu'on appelle des nudges, c'est-à-dire des tout petits coups de pouce sur la conscience humaine, qui nous amènent en fait à faire un choix qui n'est pas forcément si éclairé que cela. Il y a l'exemple sur YouTube de ce qu'on appelle les rabbit holes, c'est-à-dire des vidéos qui vont s'enchaîner en autoplay et qui ne sont pas faites pour être les plus intéressantes, mais qui sont celles qui vont le mieux et le plus fortement et le plus facilement capter notre attention. Il y a l'exemple de Netflix, par exemple, Netflix qui présente des vignettes, la vignette de chaque programme sur Netflix, qui en fait est personnalisée pour chaque individu. Et si on voit que vous avez regardé beaucoup de films d'horreur, et bien une série de fantastiques, on va prendre une vignette un peu inquiétante, comme ça vous avez l'impression que ça va vous plaire. Alors que si vous avez regardé beaucoup de comédies, au contraire, cette même série un peu fantastique, on va prendre une vignette plus joyeuse et ça va vous donner envie de cliquer. Donc moi, la question que je me pose, c'est en quoi c'est différent d'avant ? On n'a pas attendu les réseaux sociaux, on n'a même pas attendu Internet pour manipuler les foules. On peut remonter à la publicité, mais même jusque dans les années 20. C'est-à-dire, les premiers publicitaires qui se vantaient de manipuler l'opinion, c'est les années 20. On peut remonter à la propagande politique dans les années 30 et 40. Est-ce que les réseaux sociaux et les techniques que ces réseaux utilisent, est-ce que c'est une différence de degré ou de nature ? Est-ce que simplement ils le font un peu mieux ou est-ce que c'est vraiment différent ?
Alors, ce qui me paraît fondamentalement différent, c'est qu'aujourd'hui, la technologie permet de donner à chacun l'impression qu'il a exactement affaire à ce qu'il cherche, à ce qu'il attend. Vous l'évoquiez pour Netflix, c'est valable aujourd'hui dans tous les domaines. C'est-à-dire que ces technologies construisent une sorte de double numérique de nous-mêmes, et pour lequel tous nos centres d'intérêt sur les réseaux sociaux, mais aussi en dehors des réseaux sociaux, sont agrégés, de telle façon que ce qui nous est proposé à tout moment nous est personnalisé. Moi, je propose souvent à des familles ou à des collégiens, à des lycéens, de se mettre chacun devant leur ordinateur, d'ouvrir Google ou d'ouvrir une page, un mot d'appel, et ils n'ont pas les mêmes infos. Sur les caricatures, selon les personnes, vous aurez parfois des caricatures plus violentes que pour d'autres, vous aurez des caricatures historiques, vous aurez des caricatures contemporaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a chacun l'impression, quand on a affaire à ces technologies, que nous sommes très nombreux à partager notre curiosité, parce que ce qui nous paraît tellement conforme à ce que nous attendons, nous disons, c'est que tout le monde doit l'attendre aussi. Et bien non, ce qu'il faut, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, ces technologies sont ciblées précisément sur chacun d'entre nous, et c'est ça qui les rend si dangereuses, parce qu'elles nous enferment dans une bulle, indépendamment du fait qu'elles capturent notre attention, nous sommes enfermés dans une bulle, et dans cette bulle, nous avons finalement l'impression que tout le monde a un peu les mêmes choix, les mêmes centres d'intérêt que nous, sauf les abrutis, évidemment, ceux qui n'ont rien compris. Mais je ne suis pas tout seul, puisque quand j'ouvre ma page, c'est justement ce qui m'intéresse qui apparaît.
Dominique, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que pour vous, la rupture avec les technologies précédentes, y compris les vieilles technologies de propagande politique, est-ce que pour vous, la rupture, c'est la personnalisation, la capacité de personnaliser le message ?
Alors je pense que oui, on était dans des logiques de broadcasting, comme on disait, effectivement, vous avez un centre qui diffuse et qui travaille sur les contenus, et donc les méthodes de persuasion, qu'on disait propagande, etc., y compris publicitaire, elles fonctionnaient déjà, elles fonctionnaient y compris dans l'anticipation sur les effets d'une série ou d'une télé, et on appelait ça à ce moment-là le sticking factor, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de garder le public, le faire coller au contenu. Donc le travail sur les contenus, il existait déjà. La différence, c'est que désormais, il est calculé au grain de comportement, à un niveau de grain de comportement extrêmement fin, ce qui permet, comme disait Serge, cette personnalisation, parce que, précisément, vous allez reconstituer, du point de vue des corrélations que vous trouvez entre toutes les variables que vous collectez, des traces très très fines que vous collectez, quand vous êtes une entreprise de réseau social, eh bien vous arrivez à créer des profils qui vont vous permettre de programmer des placements publicitaires, des incitations, et un certain nombre de comportements qui vont être orientés, bien entendu, pour votre confort, apparemment, mais aussi pour des intérêts publicitaires. Et donc, ce qui est très important, c'est que justement, ce rythme de sollicitation qui va être enclenché, il ne se repose plus sur seulement le fait que vous allez recevoir un contenu, mais sur le fait que vous allez devenir acteur. Alors, dans la personnalisation, il y a le fait que c'est adapté à vos intérêts, mais qu'en plus, vous allez être acteur non seulement de la réception, mais aussi, donc parce que vous allez réagir, mais en likant seulement, ou en relançant, en retweetant, etc., vous générez vous-même les effets de propagation qui vont influer sur l'attention de tout votre réseau. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Vous faites travailler les individus pour amplifier les effets à une échelle qui est totalement inconnue auparavant.
Et d'ailleurs, il faut bien voir que ce qu'on critique aujourd'hui, enfin, ce dont on s'alarme aujourd'hui, c'est ce dont on s'est réjoui quand les réseaux sociaux sont apparus. On s'est dit, quand les réseaux sociaux sont apparus, mais c'est formidable. Là, enfin, chacun va pouvoir prendre la parole, les gens qui ont envie de se rencontrer, de faire des groupes vont pouvoir le faire, et même ceux qui ne sont pas très habiles pour argumenter vont pouvoir simplement dire « j'aime ». Vous savez, comme le vôtre, quoi. Oui, non, j'aime. Beaucoup de gens se sont dit, dont moi, ben, c'est formidable. Et puis, ben, on s'est aperçu avec le temps, hein, de tous les inconvénients qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des effets de groupe, hein. Il y a des gens qui disent « j'aime » et qui ne se rendent pas compte que s'ils sont des milliers, des millions à le dire, ça peut faire basculer des choses d'un côté qu'ils n'ont pas forcément décidé. Donc on s'est aperçu au fur et à mesure de tous les inconvénients, d'autant plus que les fabricants de ces machines, de ces technologies, sont allés dans un seul sens, faire plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, en faisant en sorte que les utilisateurs, ils passent toujours plus de temps, ils donnent toujours plus de données personnelles, et finalement se désintéressent de plus en plus à toute autre forme d'activité.
En fait, j'ai l'impression qu'une manière peut-être de résumer ça, c'est de dire que dans le passé, quand un homme politique, par exemple, voulait diffuser un message, eh bien, il avait l'aide d'une ou deux plumes, alors souvent des gens qui avaient fait des grandes études, qui étaient très savants, et à l'aide de sa plume ou de ses deux plumes, il devait élaborer un message qui parle à des centaines de milliers, des millions d'individus. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que le rapport est complètement inverse. Nous sommes seuls devant notre écran, et de l'autre côté de l'écran, il y a des algorithmes et des outils qui ont été designés par des centaines, des milliers d'ingénieurs qui sont tous aussi savants que les plumes qui rédigeaient auparavant les messages. Et j'ai l'impression que c'est cette asymétrie qui fait que la lutte est un peu différente aujourd'hui. On va se poser dans un instant la question de qu'est-ce que ça fait au débat public. Mais avant, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça fait aux enfants ? Parce que nous, bon, notre cerveau, il est plus ou moins formé, on a plus ou moins fait des études, on sait plus ou moins se débrouiller dans la vie, on a l'impression, sans doute à tort d'ailleurs, qu'on arrive à prendre du recul par rapport à nos écrans. Mais les enfants, on a cette citation de Steve Jobs, par exemple, qui est absolument fascinante. Steve Jobs qui disait « Mes enfants n'utilisent pas l'iPad. À la maison, nous leur limitons beaucoup l'utilisation de la technologie. » Serge Tisseron, je sais que c'est une question sur laquelle vous avez travaillé. Est-ce que les écrans sont dangereux pour les enfants ?
Alors d'abord, il faut replacer cette citation de Steve Jobs dans la réalité de Steve Jobs. Je pense qu'il procurait à ses enfants tellement d'autres choses que ses enfants n'avaient pas besoin d'aller sur un iPad. Même chose pour les fameuses écoles de la Silicon Valley dans lesquelles, paraît-il, parce que ça paraît plus compliqué que ça, paraît-il, en tout cas, il n'y aurait pas du tout d'écran, et bien dans ces écoles qui valent presque 10 000 euros par mois en maternelle, hein, l'équivalent de 10 000 dollars en maternelle, et bien vous avez tellement d'activités de coach, d'éducateurs, d'enseignants divers et variés, que les enfants, ils auront un outil numérique, ils n'auraient pas le temps de l'utiliser. Donc, comme je dis toujours, plutôt que d'enlever à nos enfants les outils numériques, proposons-leur plutôt beaucoup d'alternatives pour qu'ils voient l'intérêt de se détourner des outils numériques. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait aux enfants ? Alors, c'est un gros débat aujourd'hui parce que on n'a pas tellement de recul, si vous voulez. Les téléphones mobiles sont apparus il y a assez peu de temps. On sait que les fameux milléniaux, hein, qui ont aujourd'hui entre 20 et 35 ans, qui ont grandi avec les jeux vidéo, ils ne sont pas aussi zinzins que ce qu'on l'imaginait il y a 10 ans, 15 ans. Il y a 10, 15 ans, il y avait des propos très alarmistes sur le fait que cette génération sur les jeux vidéo allait être incapable de travailler, parce que vous savez, on a tellement de plaisir dans les jeux vidéo, comment voulez-vous accepter après de faire un travail déplaisant pour un patron ?
Mais vivre son collège en jouant aux jeux vidéo, on sent bien que ce n'est pas exactement la même chose que vivre son collège en étant sur Facebook.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qu'on appelle les iGen, hein, génération connectée, qui est différente en effet dans tous les domaines, et c'est ça qui est intéressant. C'est une génération différente dans tous les domaines de la génération précédente des milléniaux, dans le domaine du rapport à la sexualité, à la politique, à la famille, au groupe, au harcèlement, au genre, etc. Mais en revanche, aujourd'hui, on ne sait pas comment cette génération va gérer ensuite son environnement quand elle sera adulte. Si vous voulez, il faut bien comprendre que les méfaits des réseaux sociaux, quand on dénonce ces groupes constitués autour de la haine d'un autre groupe, ça concerne aujourd'hui des adultes. Les ados en trop, les pré-ados-ados, il ne faut pas oublier quand même une étude de l'UNICEF qui est parue en 2017, il n'y a pas si longtemps, qui conclut que les jeunes font plutôt un bon usage des réseaux sociaux. Ils appellent ça dans le rapport d'UNICEF un usage boucle d'or. Vous savez, cette petite fille dans le conte qui a des cheveux blonds, elle arrive dans une maison dans la forêt, il y a un petit fauteuil, un moyen fauteuil, un grand fauteuil, ça appartient à un petit ours, un moyen ours, un grand ours, et la petite fille fait un usage boucle d'or parce qu'elle choisit juste ce qui lui convient. Donc dans ce rapport d'UNICEF, ben, il est dit que les jeunes feraient plutôt un rapport boucle d'or, une utilisation boucle d'or des réseaux sociaux et de leur téléphone mobile en général, et que notamment, ben, ça leur permettrait de lutter contre la solitude, de développer leurs amis, amitié, donc un rapport plutôt assez positif. Et aujourd'hui, quand on essaye de trouver des recherches qui apportent des preuves sur une corrélation possible entre une dispersion de l'attention, par exemple, et l'utilisation des réseaux sociaux, on se heurte à un grand problème, qui est le problème de la corrélation et de la causalité. C'est-à-dire, il y a quelques études qui montrent que les enfants utilisant beaucoup plus leur téléphone mobile ont en effet plus de troubles de l'attention, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils utilisent leur téléphone mobile qu'ils ont plus de troubles d'attention, ou bien si c'est parce qu'ils ont des troubles de l'attention, ils ont toujours le cerveau un peu ailleurs, et le téléphone mobile, avec toutes les stratégies que décrivait Dominique, constamment, ça les recentre sur leur écran. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop, on attend beaucoup d'études qu'on appelle longitudinales, et évidemment, tout le monde a des histoires personnelles à raconter là-dessus, dans lesquelles des enfants sont abrutis et tout, mais en même temps, les enfants ne se montrent pas forcément tels qu'ils sont à leurs parents, voilà, les enfants ont toujours été très distants vis-à-vis de leurs parents, et donc je crois qu'il faut attendre un peu, mais sans pour autant penser qu'il n'y a pas de mise en garde à faire. Non, il faut faire des mises en garde, il faut alerter, mais en même temps, parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire que les réseaux sociaux dans la vie, mais en même temps, il ne faut pas forcément croire les développeurs des algorithmes qui nous disent « vous ne pouvez pas échapper à nos algorithmes ». Parce que ça, vous comprenez, c'est comme quand ces gars-là disaient avec la campagne que je fais, l'homme politique pour laquelle je fais ma campagne sera élu, parce qu'ils pensaient qu'il y arrivait à tous les coups. Eh bien, les fabricants d'algorithmes, aujourd'hui, ils veulent se présenter comme beaucoup plus importants qu'ils ne sont, en disant « personne ne peut échapper à nos algorithmes, si on peut échapper à nos algorithmes ». Et c'est ça qu'il faut essayer de faire aujourd'hui, en éduquant les jeunes à cette logique de l'économie de l'attention, et des modèles économiques du numérique.
Alors c'est vraiment passionnant parce que c'est quelque chose que j'avais jamais entendu et je vois un parallèle avec la publicité justement dans les années 20. Il y a un publicitaire qui s'appelle Edward Bernays, oui, qui est très bien connu, qui se vante d'avoir eu une influence sur la psychologie américaine et notamment d'avoir fait fumer les femmes américaines. Et Edward Bernays, qui était le petit neveu, je crois, de Sigmund Freud, et qui se prévalait de ça pour dire qu'il avait un accès direct à l'inconscient des consommateurs. Aujourd'hui, quand on est un peu sérieux, on se rend compte que c'était sans doute un publicitaire talentueux. Oui. Et qu'il a sans doute eu une influence beaucoup moins grande que celle dont il se vante. Et c'est vrai qu'on s'alarme beaucoup, moi le premier, du fait qu'il y a un grand nombre d'alertes qui viennent d'anciens de la Silicon Valley qui disent « attention, nos outils sont extrêmement puissants, on vous manipule ». Et j'avais jamais pensé à renverser l'affirmation en disant « oui, mais eux, ça leur permet aussi de se montrer sous leur meilleur jour. Est-ce que vraiment c'est eux qu'il faut écouter ?» Et c'est cette même question de « au fond, qu'est-ce qui a vraiment changé ?» qu'on est amené à se poser quand on réfléchit à l'interaction entre non plus les enfants et les réseaux sociaux, mais bien la société, le débat public et les réseaux sociaux. Il y a un mot, Serge, que vous citiez tout à l'heure, qui était celui des bulles de filtre, le fait qu'on soit enfermé à la fois sur Twitter, sur Facebook, même dans Google, alors qu'on a l'impression que Google est objectif, ce qu'il n'est absolument pas. On est enfermé dans un miroir qui nous renvoie les informations qui nous font plaisir ou que l'on aime lire, en tout cas qui nous font réagir et qui captent notre attention. Si bien qu'on est en permanence renforcé dans une vision du monde qu'on croit être la seule, alors qu'elle n'en est qu'une parmi bien d'autres. Et c'est ce qui amène ce phénomène qu'on appelle la polarisation, le fait qu'aujourd'hui, les groupes sont de plus en plus séparés, de plus en plus éloignés les uns des autres, et ça rend possible la circulation de fake news, parce qu'une information qui circulera dans une sphère, même si elle est fausse, ne sera pas démentie, parce que les démentis circuleront dans une toute autre sphère. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Et si vous le partagez, est-ce que c'est pas une menace directe sur notre démocratie? Est-ce qu'on peut encore débattre, délibérer en commun? Est-ce qu'on peut encore même mettre en désaccord sur la politique si on n'arrive même plus à être d'accord sur les faits qui constituent ces débats-là?
Dominique. Alors, c'est vrai que nous sommes à une phase de transformation profonde de ce qu'on appelait l'espace public, on serait bien avisé d'ailleurs de l'appeler un temps public aussi, parce qu'il faut du temps pour délibérer, il faut du temps pour discuter. Tous ces systèmes-là sont des systèmes où on raccourcit le temps de façon extraordinaire et on impose un rythme effréné de réaction. Le problème étant que, là on peut dire c'est les usagers ordinaires, ok, c'est un problème, mais ça s'étend aux responsables politiques, ça s'étend à l'ensemble de la sphère des people, par exemple, etc. Et tout le monde est pris dans la même sphère, et donc dans ce même mouvement. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a cet effet de bulle au niveau du public. On peut dire que justement, on est renforcé parce que précisément, ce sont ses amis qui nous renvoient les mêmes messages, et donc ce système de propagation tourne sur lui-même. Mais en même temps, si on veut comprendre pourquoi il y a de la polarisation, il faut bien comprendre que la prime qui est apportée dans les systèmes qui reposent sur la réactivité, et c'est le cas de Facebook parce qu'on valorise l'engagement de Twitter et de l'ensemble des autres réseaux sociaux, c'est précisément le fait aussi qu'on peut réagir, y compris à des choses avec lesquelles on n'est absolument pas d'accord, qui nous choquent énormément, y compris en les propageant pour dire à quel point on est scandalisé. Mais le seul fait de faire ça, ça leur donne une audience absolument extraordinaire. Donc le mécanisme qui est à l'œuvre à travers ça, c'est celui que des chercheurs en data science, en sciences des données, ont bien établi, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils appellent le score de nouveauté, donc le novelty score. Donc quand on mesure le fait qu'il y a des saliences cognitives, des choses qui vraiment rompent vos habitudes, parce qu'elles sont très marrantes, ou très choquantes, ou insupportables, etc., c'est cela qui va vous faire réagir, qui ne va pas vous faire délibérer ou discuter en disant « je ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas les mêmes positions » et commencer à rentrer dans un argumentaire. C'est le seul fait que le système et la conception de la plateforme est en fait pour vous faire réagir, pour des raisons publicitaires. En même temps, tous les contenus qui vont être valorisés vont être ceux qui vous font réagir. Or, un débat public, ça ne repose pas sur une somme de réactions, de petites phrases, de clashs. Vous voyez bien que là, on fait référence aussi aux médias, qui eux-mêmes ont fini par évoluer dans des logiques de clash assez souvent. Mais indépendamment de cela, les réseaux sociaux, eux, sont conçus pour nous faire réagir et non pas pour nous faire entrer dans une hiérarchisation des contenus qui consiste à dire « ah oui, ça, ça vaut le coup, ça, ça vaut... » Non, c'est quelque chose qui est avant tout organisé pour augmenter la propagation, accélérer la propagation. C'est ce qu'on appelle des fois les accélérateurs de contenu. Mais c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est le rythme. Et pas tant sur le fait qu'il y a des fake news à l'origine. Il y en aura de toute façon. Il y en aura de toute façon des fake news. Et on sera bien en peine pour dire qui est fake news. C'est toujours les autres qui propagent des fake news, jamais soi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, ce type de débat, il faut l'avoir. Parce que quelquefois, il y en a qui sont carrément illégales. Il faut effectivement les sanctionner. Mais si on vise que les contenus, on rate les phénomènes de propagation qui, eux, amplifient tout cela et, du coup, déstructurent complètement toute possibilité d'un débat argumenté qui demande du temps, évidemment.
Serge Chisseron, vous partagez ce constat, les plateformes, c'est la prime à l'émotion sur l'argumentation ?
Oui, complètement. C'est un formidable accélérateur, c'est un formidable amplificateur. Avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui trouvent qu'une insulte, c'est drôle, alors ils la relayent. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas un tempérament forcément de harceleur, mais qui ont envie de se rattacher à une communauté, et quand ils voient qu'un certain nombre de leurs amis relayent une information sur quelqu'un, eh bien ils la relayent aussi en se disant, voilà, dire que celle-là, elle est grosse, ou qu'elle est bête, c'est pas trop grave, voilà. Oui, mais je le dis, mais ce point, c'est que s'il y en a 1000 qui le disent, ou simplement quelques centaines, ça devient abominable. Mais c'est fait d'amplificateur. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on a affaire aujourd'hui à des réseaux sociaux qui déforment le jugement en le faisant toujours aller vers l'extrême, hein, et en éliminant complètement la nuance du débat, mais vous avez aussi, pour les mêmes raisons financières que celles qui meut les réseaux sociaux, diverses chaînes de télévision, même des médias papier ou des personnalités politiques, qui font exactement la même chose. Et c'est cet effet de contagion qui est terrifiant.
Alors, les plateformes, on vient de le voir, ont une influence directe sur le débat public, ce qui pose la question derrière du poids économique qu'elles acquièrent et également de leur importance politique. Et on peut même se demander aujourd'hui, faut-il démanteler une partie de ces entreprises? C'est la question qu'on se posera dans la deuxième partie de Viens voir les docteurs. Merci beaucoup, Serge Tisseron. Merci beaucoup, Dominique Boulier, d'avoir été avec nous. Viens voir les docteurs, saison 2, épisode 2, deuxième partie. Faut-il et peut-on démanteler les GAFAM? C'est cette question qui se pose aujourd'hui et je suis très heureux de pouvoir l'aborder avec Joël Toledano. Joël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Dauphine et vous venez de publier aux éditions Odile Jacob « GAFA, reprenons le pouvoir ». À vos côtés, Olivier Alexandre. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, chargé de recherche au CNRS et vous préparez en ce moment même un livre sur la Silicon Valley. Alors avec vous, on va remonter un peu d'un cran et véritablement se poser la question de ces entreprises, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Comment fonctionnent-elles? Comment font-elles leur argent? Quels sont leurs modèles économiques? En quoi posent-elles problème? Posent-elles d'ailleurs problème? Et si la réponse est oui, que peut-on encore faire? La première chose sur laquelle j'aimerais revenir, ce sont les données pour que nous sachions ensemble de quoi nous parlons et qu'on se représente exactement ce que sont ces GAFAM. On a un graphique qu'on a préparé qui montre la capitalisation boursière de ces entreprises. On voit ça juste ici. En janvier 2020, Apple, 1320 milliards de dollars. Alphabet, donc Google, 930 milliards de dollars. 930 milliards de dollars Amazon. 598 milliards de dollars Facebook. Joël Toledano, est-ce que c'est beaucoup ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais depuis janvier, ça a dû prendre grosso modo 50%.
Comment est-ce qu'on peut se rendre compte du pouvoir économique des GAFAM. À quoi on peut comparer ces chiffres? Parce qu'en fait, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est très abstrait, on se rend compte que ça a l'air grand, mais à quel point c'est grand et surtout quel pouvoir ça donne à ces entreprises? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques ordres de grandeur et de comparaison?
Alors, en fait, il faut effectivement regarder les différentes dimensions de ces entreprises. Si par hasard vous les preniez par un chiffre qu'on utilisait beaucoup dans l'ancien monde, dans l'ancienne vie, qui était l'effectif, au fond, ces entreprises, c'est un peu plus d'un million de personnes, c'est-à-dire pas grand-chose à la mesure, si je puis dire, de l'importance qu'elles ont. C'est un peu plus que le nombre d'enseignants en France, donc c'est raisonnablement important. Maintenant, si vous regardez la capitalisation boursière, si vous prenez la capitalisation boursière d'Apple, par exemple, vous êtes en gros au niveau de la capitalisation boursière du CAC 40.
La capitalisation boursière d'Apple, c'est équivalent à tout le CAC 40 français, donc les 40 plus grandes entreprises françaises.
Exactement. Alors, ça, c'est une métrique, une façon de regarder. Si vous regardez une autre façon et que vous avez là encore envie, entre guillemets, de vous faire peur, vous regardez la R&D. Et là, si vous
êtes
la recherche et développement, voilà. L'ensemble des sujets que ces entreprises travaillent en matière de nouvelles technologies, de recherche scientifique, etc., c'est un peu plus qu'une fois et demie la totalité de la recherche et développement française. Autre façon de regarder le sujet, complètement différente, vous regardez le côté impact sur la communication, l'information. Vous savez que certaines tranches de population, et en particulier celles qui nous regardent aujourd'hui, s'informent beaucoup à travers les médias sociaux. Or, les médias sociaux importants, c'est quoi? C'est Facebook d'un côté, YouTube. Donc, c'est aussi la puissance de communication à travers quelques entreprises. Autre dimension, et je m'arrêterai là, mais qui est quand même peut-être la plus impressionnante au fond. Si vous regardez Google, Facebook et Amazon, donc trois d'entre elles, vous avez ces trois puissances économiques pour lesquelles je viens de donner quelques indications. Et derrière, il y a quatre personnes. Ce n'est pas du tout le modèle de gouvernance auquel on est habitué, avec un conseil d'administration. Derrière Facebook, il y a effectivement une personne qui a 60% des droits de vote. Et on pourrait regarder, Google, c'en est deux, etc. Donc, c'est des puissances économiques, financières et politiques qui sont entre les mains de quelques personnes.
Ça, c'est quelque chose de crucial, on va y revenir. C'est énormément de pouvoir économique, énormément de pouvoir médiatique, de pouvoir d'influence, le tout concentré entre les mains de quelques individus, littéralement d'une poignée d'individus. Olivier Alexandre, on vient de dire que ces entreprises, c'est un million d'employés, donc un chiffre relativement modeste. Ils ne sont pas tous à la Silicon Valley, une partie d'entre eux sont à la Silicon Valley. Comment ça se passe au sein de la Silicon Valley? Est-ce que les employés qui travaillent pour ces entreprises que vous avez rencontrées, est-ce qu'ils ont conscience d'avoir entre leurs mains, sous leur clavier, un tel pouvoir?
Alors, déjà, j'aimerais revenir sur ce qu'on a évoqué en termes de masse, de puissance économique. Parce qu'effectivement, quand on regarde ces chiffres, ils sont très frappants. Mmh. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est de voir de la manière, de la vitesse à laquelle ils ont été constitués. Si on regarde, quand on parle des GAFAM, vous avez en fait des entreprises qui appartiennent à des générations différentes. Apple et Microsoft, c'est les années 70, c'est l'ordinateur personnel. Google, c'est la fin des années 90, donc c'est le boom Internet. Et Facebook, c'est la même chose, c'est 2004, c'est le début des réseaux sociaux. Or, ces entreprises, Google et Facebook, sont arrivées au sommet de la capitalisation boursière mondiale en 15-20 ans. Là où, si on compare avec des entreprises du CAC 40, c'est des entreprises qui leur ont fallu 80, 90 ans, 100, parfois 150 ans. Donc, la question
c'est
de la
une
vitesse...
croissance fulgurante.
La question de la vitesse, historiquement, quand on regarde les choses, est absolument frappante et un peu sidérante. Donc, la question, pour rejoindre la vôtre, la question, c'est comment, finalement, ces entreprises s'organisent pour arriver à développer, à innover et à développer, à capter de la valeur aussi rapidement. Et le paradoxe auquel on est confronté, c'est celui effectivement de la démographie. C'est-à-dire que quand on regarde un million de travailleurs qui arrivent à capter, à générer autant de valeur, c'est frappant. Et c'est d'autant plus frappant qu'en fait ce million de travailleurs, il est très inégalement réparti en fonction de ces entreprises. En fait, 80% de ce million de travailleurs, c'est Amazon, parce qu'ils ont des entrepôts avec des gens souvent à bas salaire qui travaillent dans ces entrepôts. Mais en fait, si on prend Google, c'est 60 000 personnes, dont la moitié est à Mountain View, dans la Silicon Valley. Le cas le plus frappant, le plus exemplaire de ce point de vue-là, c'est WhatsApp, 200 personnes, racheté par Facebook à hauteur de 19 milliards. Alors, est-ce que ces gens-là ont conscience de leur pouvoir ? Oui et non. Disons que la Silicon Valley ou l'industrie de la tech n'est pas un univers homogène. Hein, on pourrait dire la même chose en fait de toutes les industries. Si vous regardez la télévision, que vous connaissez un peu, ou l'automobile, ce n'est pas non plus un univers homogène. C'est-à-dire qu'il y a des hauts dirigeants, et puis il y a des petites mains, il y a des gens qui ont un rôle très important dans l'entreprise, et d'autres beaucoup moins. La Silicon Valley, c'est en gros, au plus large, c'est 3 millions de personnes pour un ensemble de la population qui est en gros 9 millions de personnes. Donc c'est beaucoup. Imaginez s'il y avait la même chose en Île-de-France, puisque c'est une échelle un peu comparable, 10 millions de personnes, ça ferait une personne sur trois qui travaille dans la tech, dans l'univers du digital. Donc c'est vraiment énorme. C'est quasiment une civilité ou une citoyenneté athénienne, quoi. C'est-à-dire d'interconnaissance où tout le monde fait un peu la même chose. Mais une fois qu'on a dit ça, on retrouve des hiérarchies très très fortes entre effectivement des hauts dirigeants passés par les très grandes universités qui sont en partie internationalisées, hein, puisque un tiers des très hauts dirigeants viennent de pays étrangers. Donc c'est une dimension très importante, ça, le cosmopolitisme de la Silicon Valley. Et puis l'autre point qui est à la fois qui fait lien, qui fait différence, c'est leur très grand attachement, croyance dans les capacités des technologies à apporter un meilleur futur.
Alors c'est très intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer, et pour qu'on se représente, on a fait la courbe de la croissance des utilisateurs de Facebook. Facebook, c'était quelques millions d'utilisateurs il y a encore une dizaine d'années. Et aujourd'hui, en 2020, on est à 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels. Chaque mois, il y a 2,7 milliards d'êtres humains qui se connectent à Facebook. C'est plus d'un être humain sur trois qui utilise ce service. Et vous venez de nous expliquer que ces entreprises qui brassent une somme d'argent phénoménale, dont les produits, dont les services sont utilisés par un nombre plus que significatif d'êtres humains. C'est une part de l'humanité, en tout cas de nos civilisations aujourd'hui. Ces entreprises sont opérées par un tout petit nombre de personnes, concentrées dans un tout petit territoire, avec à leur tête une ou deux personnes décisionnaires toutes seules. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que dans l'histoire de l'humanité, on a des exemples d'organisations où un homme a eu un pouvoir comparable ? Comme ça, je pense à l'Empire romain, on pense au président des États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ?
On entend souvent dire que ces entreprises veulent remplacer les États. Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, que juste les États les embêtent un peu. Et je ne crois pas du tout, mais c'est vous le spécialiste de la Silicon Valley, je pense qu'il y a plutôt une sorte de curiosité un peu méprisante. C'est-à-dire que ce n'est pas très efficace, un État. Donc, ils ne veulent pas remplacer les États.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir de quelques individus. J'ai bien compris qu'une entreprise n'était pas un État. Mais le pouvoir de Mark Zuckerberg, est-ce qu'on peut dire que Mark Zuckerberg, il a véritablement un énorme pouvoir entre ses mains ?
Pouvoir, je ne sais pas. Puissance, ça, c'est sûr. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on parle en termes de comparaison historique, pour donner quand même des éléments un peu tangibles, ce qui est frappant, je trouve, avec cette révolution industrielle, c'est que c'est la première révolution industrielle qui ne repose pas sur l'exploitation d'une ressource première ou d'une ressource rare, mais sur le travail humain. Et que quand on regarde cette industrie, c'est une industrie qui est caractérisée aussi par son jeunisme. Et ça, c'est deux éléments qui sont très frappants, c'est-à-dire qu'on a des gens dont la valeur est liée au travail et dont la valeur n'attend pas le nombre des années. Et cet élément-là fait que ça peut créer un sentiment de puissance et de toute puissance très fort qui se retrouve dans des idéologies qui sont liées à cette industrie, et notamment celle du libertarianisme. Alors, le libertarianisme, en français, on est toujours un petit peu embêté parce qu'on ne voit pas trop exactement où ça se situe. On pourrait parler, si on devait l'encoder à la française, on dirait peut-être anarchisme de droite ou de gauche. Enfin, ça peut être les deux en fonction de regarde le social ou le culturel. À travers Amazon ou Facebook, on retrouve vraiment ce type d'idéologie. D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Jeff Bezos et Mark Zuckerberg lui rendent régulièrement hommage.
Alors, la question suivante, c'est de zoomer un peu sur ces GAFA, mais de se poser la question de leur modèle économique. C'est une vraie interrogation. Comment ces entreprises font-elles leur argent? Et est-ce que ça a même un sens, au fond, de parler de GAFAM? Parce que dans ces entreprises, on a Apple qui fait des ordinateurs, Microsoft qui fait des logiciels, Amazon qui vend des produits, et puis on a Google et Facebook qui font de l'argent sur de la donnée, et on ne sait pas exactement comment, en tout cas on peut avoir du mal à se représenter comment. Est-ce que ça a un sens de parler de GAFAM?
Personnellement, je ne parle pas de GAFAM, mais de GAFA.
D'accord.
Alors pourquoi? Parce que, je parlerai de Microsoft un peu après, la caractéristique commune à ces quatre entreprises, c'est que s'appuyant sur des positions effectivement dominantes à un instant donné, qu'elles ont créées par leur propre mérite, par le fait que, en réalité, ils nous ont apporté des services fantastiques, et il faut toujours avoir ça en tête pour comprendre quand même ce qui est en train de se passer, à partir de là, ils ont tout fait, au fond, pour qu'il ne leur arrive pas ce qui était arrivé aux gens qu'ils ont remplacés. Et donc, ils ont progressivement mis en place des stratégies pour verrouiller les marchés, se développer, alors j'ai envie de dire en tache d'huile, c'est pour montrer cette idée, je prends le marché le plus proche, puis le suivant, en m'appuyant sur là où je suis fort. Et il y a eu toute une série de stratégies économiques qu'on peut qualifier, l'une des plus, dont on parle le plus souvent, il en a été question tout à l'heure, c'est le fait de faire des acquisitions, c'est quand même majoritairement ce qui explique le prix payé pour l'acquisition de WhatsApp, c'était que, au fond, Facebook a voulu éviter l'arrivée d'un concurrent.
L'idée, est-ce qu'on peut résumer en disant simplement que ces entreprises ont atteint une telle masse financière que quand un concurrent émerge, elles peuvent simplement se permettre de le racheter plutôt que de subir sa concurrence?
Oui, vous avez raison, mais je dirais même pas quand un concurrent émerge. Quand il y a un risque potentiel de concurrent, ils sont prêts. Effectivement, j'ai presque envie de dire, si vous voulez, ils achètent ça de façon statistique. C'est-à-dire qu'on en achète 10, et puis là-dedans, il y en aura probablement un ou deux qui auraient pu faire mal. Et donc, comme évidemment, quand vous regardez l'âge médian, c'est-à-dire l'âge en gros des acquisitions de Facebook, c'est des boîtes qui ont 2 ans. Donc, on voit bien qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de savoir si vraiment elles auront le potentiel. Mais par contre, il y en a là-dedans qui pourraient l'avoir. Et donc, c'est une stratégie qui vise effectivement à empêcher l'émergence de concurrents.
L'exemple typique, c'est sans doute Instagram, qui est racheté. Quand Instagram est racheté par Facebook, il y a des années et des années de ça, c'était une petite application sympa qui permettait de faire des photos avec des filtres.
Et 30 millions d'utilisateurs. Et voilà. uniquement sur iOS et pas sur Android.
Et aujourd'hui, c'est devenu le réseau social qui est en train, chez les jeunes, de remplacer Facebook, mais peu importe, puisque c'est la propriété de Facebook. Ouais. Olivier, Alexandre, c'est quoi le point commun de ces quatre grandes entreprises? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Microsoft est un peu à part?
Oui et non. En fait, c'est les meilleurs ennemis ou amis l'un de l'autre. Ce qu'il faut voir, par exemple, si on s'intéresse un petit peu à la Silicon Valley, qui ressemble un peu à la vie à Dallas, quoi, hein, ou à Dynasty, hein, c'est à la fois des amis, des ennemis. Oracle, par exemple, travaille beaucoup avec Apple, mais Oracle est aussi en conflit ouvert à travers un procès avec Google.
Oracle, qu'est-ce que c'est?
Oracle, c'est une industrie de stockage et qui permet, enfin qui est vraiment un fondement de l'industrie en termes d'infrastructure de gestion des données.
Parce que derrière ces entreprises, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a quelques employés, mais il y a des sous-sols entiers à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres de serveurs et d'ordinateurs.
Bien sûr. Et j'en dirai un mot juste après, si vous voulez bien. On a comme ça cette... oui, où Amazon et Google aujourd'hui, hein, l'un et l'autre se regardent un petit peu en chaîne faïence parce qu'ils ont conscience d'être le premier ennemi ou concurrent. Et en même temps, si on regarde l'histoire de ces entreprises, Jeff Bezos est un des premiers investisseurs dans Google. Donc c'est vraiment une ambiguïté. Et si on regarde les gros marchés aujourd'hui auxquels ils essayent de s'attaquer, ils se retrouvent aussi en première ligne de la concurrence, y compris quand le Pentagone, par exemple, ouvre son marché du cloud. On retrouve d'un côté Microsoft, de l'autre côté Amazon, avec Google en juge arbitre, et en l'occurrence qui s'est retiré au dernier moment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on a à gagner en essayant de faire un pas de côté ou un pas de recul pour voir comment cette industrie est organisée. Très souvent, il y a cette expression d'écosystème. Et l'écosystème, ça veut bien dire que ce n'est pas juste 4 ou 5 entreprises. C'est beaucoup plus, en réalité. Au sein de la Silicon Valley, alors il y a des variations suivant les périodes de crise, mais c'est en gros 10 000 entreprises. Et le modèle de cet écosystème, technologiquement, économiquement, socialement, il est fondé sur deux lois, qui ne sont pas des lois d'ailleurs. Qui ne sont pas des lois, mais peu importe, parce qu'elles fonctionnent comme une prophétie autoréalisatrice. La première loi, c'est la loi de Moore, cette idée que les technologies seraient, leur capacité serait multipliée par deux toutes les années ou tous les 18 mois, plus exactement. Et la deuxième loi, c'est la loi de Metcalf. L'un et l'autre, hein, Moore d'ailleurs et Metcalf étant deux figures historiques de la Silicon Valley, Metcalf, c'est l'idée que plus un réseau est étendu, plus il a de valeur. Donc si vous additionnez la loi de Moore et la loi de Metcalf, vous avez cette espèce de course à l'innovation perpétuelle dont la seule porte de sortie, c'est le temps d'après. Et l'échelle de grandeur, l'échelle de temporelle, elle est en gros à 18 mois. Ce qui fait que pour les entreprises de la Silicon Valley, ils savent bien que le défi d'aujourd'hui se gagne et se gagnera demain. Ce qui les amène cycliquement à se positionner sur des nouveaux marchés. Et pour une jeune pousse, une start-up, votre modèle, en fait, votre issue de sortie, elle est très, très, très réduite. Elle est extrêmement réduite. Mettons, Clément, que demain, vous disiez, je vais créer une start-up avec des copains et des copines. Vous n'aurez pas 36 000 solutions. Déjà, vous serez dans l'industrie la plus risquée au monde, hein. C'est 92% des entreprises qui disparaissent après 5 ans et qui disparaissent. Les industries les plus risquées, c'est la finance et la restauration qui sont à 20 points derrière. Donc, c'est vraiment où les cycles de vie sont très raccourcis. Et ensuite, vous aurez en gros deux possibilités. Soit vous vendez votre entreprise, soit vous l'amenez en bourse. Mais l'amener en bourse, c'est comme, c'est même pire que gagner au loto, quoi. En termes de statistiques, c'est vraiment extrêmement, extrêmement réduit. Donc les acquisitions, quand vous créez votre entreprise au bout de 2 ans et qu'on vient vous amener un package d'un milliard, généralement, vous le prenez. Ce qui fait qu'effectivement, ça empêche des concurrents d'émerger au niveau de ces 4 ou 5 grands poids lourds.
Alors, ça m'amène à une question que je réserve pour tout à l'heure, mais qui en fait est la question qui me brûle le plus les lèvres, qui est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises peuvent encore disparaître? Et j'ai l'impression en fait que plus ça va, plus ça devient une véritable question à se poser. On vient de dire que ces entreprises avaient un pouvoir énorme concentré entre quelques petites mains, et ça m'amène à une interrogation plus générale. Est-ce qu'on peut réguler les GAFAM, est-ce qu'on peut leur imposer des règles, est-ce qu'on peut leur imposer des normes, ou est-ce que c'est une zone de non-droit? Il y a cette expression, je crois, dans la Silicon Valley qui dit que « code is law », c'est le code qui fait la loi. À votre avis, Olivier, est-ce qu'on pourra réguler ces entreprises?
Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Effectivement, Mark Zuckerberg est très habile, stratège, quand il dit « les gens ont choisi ». Il le répète 2-3 fois, « les gens ont choisi ».
C'est vrai, non ?
C'est vrai. Et d'ailleurs, quand on se connecte sur Facebook, ce qu'il faudrait mettre en lumière, c'est que c'est aussi Facebook, c'est une excroissance d'une sociabilité étudiante, où on partage des choses entre soi, contre les autres, les professeurs, les parents, les autorités traditionnelles. Et on choisit d'exclure certains et de se lier avec d'autres. Et d'une certaine façon, enfin, ce modèle de sociabilité, il s'est perpétué. Par contre, là où la question est absolument terrible pour lui, je crois, c'est que, effectivement, ils ont choisi de les partager avec leurs amis, mais ils n'ont pas forcément choisi de le partager avec une industrie et des entreprises qui, soit géreront mal leurs données, et c'était le cas de Cambridge Analytica. Hein. Le problème avec Cambridge Analytica, c'était que Facebook n'a pas tracé l'utilisation des données qui étaient faites par une entreprise tierce, Cambridge Analytica, qui, elle, pactisait avec le diable, je ne sais pas, mais avec un ensemble de régimes dont le mépris des droits civiques était clairement exposé dans la presse et connu des associations de suivi des droits de l'homme. Ensuite, sur la question, est-ce qu'on peut les réguler? Je pense oui, bien sûr. C'est une génération où ce sont des générations de bons élèves, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont appris à jouer avec la loi, à jouer avec le système. C'est le sens même de la notion de hacker, qui est vraiment emblématique dans la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on pose un cadre, l'objectif, que ce soit technologique, social ou politique, c'est de le contourner. et d'en tirer le meilleur avantage. Donc, le législateur peut tout à fait contraindre ces entreprises à un cadre en termes de gestion de données ou en termes de publicisation de leur activité. Mais par contre, il faut qu'ils tiennent ce rythme. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important. En économie, vous savez, vous avez ce paradoxe entre le temps politique et le temps économique. Le temps politique serait un temps du court terme, le temps économique serait le temps du long terme, ce qui fait qu'on a souvent du mal à tenir le gouvernail. Dans le domaine de la technologie, la problématique, elle est inverse. C'est-à-dire que le temps de la technologie, qui est en gros à 18 mois, est beaucoup trop court pour le temps politique. Là, en l'occurrence, on va avoir du mouvement à Bruxelles avec le Digital Service Act. Et on a eu la RGPD il y a 2 ans, donc une réglementation générale de la protection des données et le Digital Service Act qui est censé va donner un cadre à la concurrence du digital. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces deux nouveaux cadres prennent la suite de lois qui datent respectivement de 1995 et 1999. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1995 et 1999 ? La création d'Amazon, de Google et de Facebook.
Alors, c'est passionnant, on vient de voir ensemble moult choses que l'on savait, que l'on pouvait dire. Et quand on fait de la science, quand on fait des sciences sociales, des sciences économiques, il y a aussi tout un ensemble de choses qu'on ne sait pas. Et c'est là-dessus que j'aimerais me concentrer pour finir. Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Alors, question courte, réponse courte. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut apporter une réponse. Première question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on parviendra un jour à taxer les GAFA ?
Oui. Oui, la réponse courte.
Ça prendra du temps ?
Là, pour le coup, ça peut encore prendre du temps, mais globalement, non seulement on arrivera à les taxer, mais on arrivera, je pense, à les réguler.
Deuxième question, ces entreprises qui sont devenues tentaculaires, qui sont devenues des empires, des écosystèmes, est-ce qu'on peut les démanteler ? Et les séparer, forcer Facebook à revendre WhatsApp. Et est-ce que ce serait une bonne idée ?
Alors, je vais répondre à la première question. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on peut les taxer, on le fait déjà. Mais le problème, il vient surtout du manque d'homogénéité politique des taxeurs. C'est-à-dire que tant aux États-Unis que dans l'Union européenne, par exemple, le pays qui est chargé de faire appliquer auprès de ces GAFAM la RGPD, c'est l'Irlande. Et l'Irlande, il se trouve que c'est aussi leur paradis fiscal. Donc, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous disiez, celui avec qui... Enfin, le dealer, en gros, il va faire aussi la police. Vous voyez bien qu'il y a un conflit d'intérêts. Enfin, vous m'aurez bien compris. C'est une formule, une image choquante et scandaleuse. Mais la double position, elle est aussi un petit peu étrange, ambivalente en termes de morale. Et ensuite, sur la question de est-ce que... on peut les démanteler. Donc c'est toute la problématique du « too big to fail », qui est un répertoire, un registre qui est appliqué habituellement aux institutions bancaires. Cette idée que quand une banque est trop centrale et trop importante dans un pays, on est obligé de la soutenir, sinon les dégâts de sa faillite seraient trop importants pour la collectivité. Si on démantelait les différents services de ces industries, je pense qu'elle pourrait continuer à fonctionner. Ensuite, il y a d'autres hypothèses. Des gens qui parlent, par exemple, d'une monopolisation d'Amazon. Bon, là, il faudrait que l'État se dote des moyens pour assurer ses services. Et on voit bien les conflits que ça pourrait représenter. Et puis, enfin, il y a un troisième scénario. C'est juste de faire appliquer les lois qui existent et d'essayer de les moderniser au même rythme, ou du moins un rythme pas trop éloigné de celui des GAFA.
Dernière question qui, en fait, est la plus centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, ces entreprises peuvent encore mourir ? Est-ce qu'elles peuvent encore faire faillite ? On sait que Nokia avait le leadership des téléphones portables. Aujourd'hui, Nokia, c'est plus grand-chose. Polaroid avait le leadership de la photographie. Aujourd'hui, Polaroid, c'est plus grand-chose. Est-ce que Facebook, Google, Amazon n'ont pas atteint une telle masse critique dans leur business model qu'elles ne peuvent plus faire faillite ? On ne pourra plus jamais attaquer ce monopole ?
Je pense que si on commence à les réguler en mettant en place des règles qui permettent de déverrouiller les marchés, je parlais tout à l'heure des verrouillages, qu'on commence à réintroduire de la concurrence, il y aura des évolutions. On peut pas, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est du temps, je sais pas si c'est une addition de 18 mois, mais c'est du temps long. C'est vrai que si vous me dites à 1 an ou 2 ans, non, évidemment. À 20 ans, personne parmi nous trois et ailleurs n'est capable de dire ce qui va se passer. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en place une dynamique qui empêche ce qui est devenu une atteinte à l'innovation à travers ce verrouillage des marchés.
Olivier, est-ce que les GAFA sont too big to fail ?
Alors, too big to fail, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne sont pas assez big encore pour justement faire exister totalement le monopole au sens plein du terme. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont les uns et les autres les meilleurs concurrents des uns et des autres. Et que, enfin, bizarrement, c'est les derniers garants de la domination et de la prédation absolue, premier élément. Et puis, le deuxième, c'est que c'est leur grand... C'est leur grande peur, hein. C'est ce qui les réveille la nuit, hein, de se faire manger les uns par les autres et de se retrouver Google à l'intérieur d'Amazon ou Google à l'intérieur d'Apple. Et ce cauchemar-là de nuit, il vient d'une période dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est cette loi antitrust de Microsoft qui avait été déclenchée par cette systématisation, cette obligation de Microsoft quand on utilisait Windows, de télécharger aussi Internet Explorer, ce qui a causé la mort de Netscape, qui était vraiment l'enfant chéri de la Silicon Valley. Et les gens de la Silicon Valley ont très bien retenu cette leçon, puisqu'ils font aujourd'hui exactement la même chose à travers les portails d'Android en obligeant de télécharger systématiquement le navigateur de Google.
Eh bien, je voulais finir cette émission en vous demandant si ces entreprises peuvent encore disparaître, être démantelées. Et finalement, vous nous montrez un autre horizon presque plus terrifiant encore. Elles peuvent s'entre-dévorer entre elles pour devenir encore plus grosses et encore plus puissante. Je ne sais pas si c'est la perspective heureuse sur laquelle on voulait rester. En tout cas, merci beaucoup, Joël Toledano. Merci, Olivier Alexandre, pour toutes ces informations. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Viens voir les docteurs sur Click TV.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Ça fera plaisir à Clément Viktorovitch. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Ça me fera plaisir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Viens voir les docteurs en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télévision sur la chaîne Click TV. Quant à l'émission Click, c'est le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez, sur MyCanal. À très bientôt. Gros bisous.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.